Au départ, c'est pas évident, ces petits points. Parce que j'avais peur d'être trop âgée pour apprendre. Mais aujourd'hui, je peux lire. J'ai appris également à écrire le braille. Donc, à la maison, j'ai une machine à écrire Perkins. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être autonome grâce au braille.
Le braille a révolutionné la vie de millions de non-voyants ou de malvoyants dans le monde. Mais derrière ce mot braille, il y a un inventeur dont j'ai tout découvert ou presque en lisant avec beaucoup d'émotion, parfois une larme, dois-je l'avouer, le roman d'Hélène Jousse, Les mains de Louis Braille. Bonjour Hélène Jousse.
Bonjour.
Très peu de livres avaient été consacrés à cet homme qui est encore un enfant quand il invente cette méthode de lecture et d'écriture. Comment se fait-il ?
Alors, peut-être que ça tient à son tempérament. Il n'aurait peut-être pas voulu qu'on parle de lui. C'était quelqu'un de très modeste. Et puis, je me suis posé la question aussi. Je pense que... En fait, je crois qu'il fallait l'écrire de manière romancée. C'est ce que j'ai choisi de faire. C'est-à-dire qu'il y a des... Louis Braille est mort méconnu. Et donc, on a assez peu de choses, on sait assez peu de choses, et il fallait que les éléments qu'on a, il fallait, je pense, que ce soit un romancier qui s'en empare. Ce qui ne veut pas dire que ce que je raconte n'est pas vrai. Tout est vrai, tous les événements sont vrais.
Mais c'est une façon de raconter.
Oui, après j'ai imaginé les scènes qui correspondent à ces événements. Alors, je crois que dans la vie, ce qui fait une vie, ce sont effectivement les faits qu'on peut lister. Il n'y en a pas toujours énormément dans une vie. Il y a quelques dates majeures dans la vie de Louis Braille. Il y a évidemment la date de son invention. Et ce qui fait une vie, c'est surtout la vie intime. C'est comment on réagit à ces faits, comment on réagit à ces événements. Et ça, il faut rentrer dans la tête de quelqu'un, du personnage, pour le savoir.
Ce que vous appelez la véracité des êtres. Et d'un nom Braille, finalement, vous avez voulu faire un personnage.
Exactement.
Un personnage de roman, mais aussi un personnage de cinéma, car vous n'avez pas choisi de faire une autobiographie, mais plutôt d'imaginer l'histoire d'une jeune femme, Constance, qui écrit pour le cinéma un scénario sur Louis Braille. Et c'est vrai qu'en vous lisant, on se dit que ça ferait un sacré film.
Oui, au départ, je voulais en faire un film.
Et finalement, c'est un roman.
Mais pour faire un film, il faut que d'autres croient en vous et ils croient beaucoup en votre histoire, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et comme Louis Braille n'était pas encore très connu, j'ai eu du mal à faire en sorte que ce soit un film d'emblée. Et finalement, c'est mieux ce qui se passe, parce que effectivement, un film, on donne à voir, on a des décors, on a les scènes, mais un livre, on rentre dans la tête des personnages. Je pourrais pas, dans un film, raconter aussi bien ce qui se passe dans la tête de la maman de Louis le jour où on lui annonce que son fils va devenir aveugle et qu'on lui dit préparez-vous et préparez-le, ce qui est terrible quand une mère entend ça.
Et puis un roman, c'est mieux quand on parle de cette question-là, de la cécité. Quand on veut rendre hommage à quelqu'un qui a aidé des millions et des millions d'aveugles de par le monde, c'est mieux qu'un film.
Oui, moi je trouve. Alors surtout, vous parliez de cette scénariste. Au départ, j'avais pas imaginé mon livre de cette manière. J'avais écrit des scènes qui ne concernaient que la vie de Louis Braille. Hein. Comme vous l'avez dit, le livre alterne entre scénario, scène, temps. Donc on voit le film, c'est ça qui est merveilleux dans un film, dans un livre, ça nous empêche pas de voir. Les scènes sont décrites, certains lecteurs m'ont dit on a l'impression d'être dans le film. Et puis ça alterne avec des chapitres sur la scénariste Constance qui permet en fait de dire en fait quand on est biographe, on a des scrupules. Parce que c'est difficile de parler de quelqu'un. On se dit toujours, moi je me suis posé la question, est-ce que je suis respectueuse de qui était Louis Braille vraiment? Et puis, on s'y met, on fantasme, ou on projette des choses, ou alors en sens inverse, on se révèle. Ce qui arrive d'ailleurs à cette femme. Et mon propos, c'était de dire aussi, c'était évidemment de parler de Louis Braille, mais de me servir de cette vie extraordinaire pour dire comment quelqu'un aujourd'hui, au XXIe siècle, peut faire une vraie rencontre, alors qu'il ne, que Constance jamais ne rencontrera Louis Braille, une vraie rencontre qui va changer sa vie, je ne veux pas tout dire, mais la vie de Constance va changer grâce à cette rencontre. De même qu'en lisant un roman, un personnage de roman peut nous transformer, ou un personnage historique qu'on n'aura jamais l'occasion de voir.
Mais sacré personnage quand même que ce Louis Braille, même s'il est, vous l'avez dit, très, très discret, c'est quand même un destin. Il invente le Braille, cette technique d'écriture. Il a 16 ans.
Il
est tout petit.
Mais c'est, alors moi, c'est ce qui m'a bouleversée dans cette vie. Je suis comme Constance, ou elle est comme moi plutôt. Ce qu'elle voit, ma narratrice, dans Louis Braille, c'est l'enfant tout d'abord. Parce qu'il est impressionnant de maturité. Alors d'abord, c'était un génie, mais ça va sans dire, pour inventer ce système qui est très complexe et très simple à la fois, qui est aujourd'hui encore, on n'a pas trouvé mieux, hein, qui est le système d'écriture pour les aveugles dans le monde entier. C'est un génie, et c'est aussi humainement un personnage extraordinaire. Et ça, les scènes le racontent mieux que moi. Enfin, Constance raconte les scènes par lesquelles on voit qu'elle est bouleversée par l'enfant qui, dès 12 ans, se dit « J'inventerai l'écriture et la lecture pour les aveugles. J'ouvrirai les livres aux aveugles. »
Honneur et hommage à l'inventeur d'un alphabet qui a rendu lumineux des livres devenus noirs pour des millions de personnes.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Oui,
ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vive le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vive le bleu sous le beige. Malgré les avalanches. Les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vive le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vive le bleu sous le beige.
Avalanche, extrait du prochain album de Batlick, L'art de la défaite, album annoncé pour septembre prochain. Hélène Jousse est aujourd'hui notre invitée sur RFI pour son roman sur Louis Braille, roman, scénario. Il faut, quoi qu'il arrive, raconter les lieux et l'époque. Nous sommes au début du 19e siècle en région parisienne, dans une famille d'artisans. Le père est bourrier, donc ça veut dire qu'il travaille le cuir, Hélène Jousse. Et cette profession n'est pas tout à fait un hasard, et elle va énormément compter dans le destin de Louis Braille. Malheureusement.
Oui, malheureusement, ou heureusement, parce que si Louis Braille n'avait pas eu cet accident, il n'aurait pas inventé le Braille. Et je pense que quelqu'un d'autre l'aurait peut-être fait, mais beaucoup plus tard. Ça, j'en suis convaincue que il a été précurseur.
Donc il joue dans l'atelier de son père.
Il joue dans l'atelier de son père. Il est très curieux, très vif, très intelligent, le petit Louis Braille. Il a 3 ans. Son père s'absente, il est en train de fabriquer une selle, il s'absente. Louis Braille est seul et il se dit « je peux faire comme mon père ». Il est très très admiratif, il prend l'outil, il est sur un tabouret, il s'exerce, il y arrive. Il se relâche et le tabouret tourne, il tombe et dans sa chute, l'outil lui transperce l'œil gauche.
Et c'est une pointe.
Et voilà, c'est une pointe, un poinçon.
Un poinçon.
Comme le poinçon qu'il utilisera pour faire lire les aveugles.
Et il perd un œil, et on est au 19e siècle, donc la médecine n'est pas ce qu'elle est.
Voilà, Pasteur est né après Louis Braille, et donc peu à peu l'autre œil est contaminé, et un médecin annonce aux parents que Louis Braille va devenir aveugle.
Le père, bien évidemment, est totalement culpabilisé. En même temps, il y a une grande connivence avec eux, et vous notez cette très jolie chose que le mot connivence vient de fermer les yeux. Donc il y a une connivence entre le père et le fils, et le père décidera de ne plus parler.
Oui, alors, quand les choses sont terribles, quand le drame est trop grand, ben voilà, c'est même pas des stratégies, c'est notre inconscient. Et le père de Louis, pendant un moment, devient muet. Et ça ne l'empêche pas, au contraire, étonnamment, de rester en contact avec son fils. Et la mère de Louis, à ce moment-là, réagit. C'est une femme, j'ai beaucoup, beaucoup écrit sur elle. C'est un livre sur la maternité, au-delà d'un livre sur Louis Braille. Hein. Comment font des parents dans un cas pareil ? Et elle est très inventive, cette femme. Louis Braille a été... C'est un cas de résilience merveilleux, on dirait ça aujourd'hui. C'est un mot qui, évidemment, n'existait pas à l'époque. Et... Ce qui permet la résilience de Louis Braille, c'est cette dose d'amour incroyable et d'inventivité, voilà, de sa maman, qui sans arrêt trouve des idées pour lui et l'aide, parce qu'elle croit, elle ne l'a pas jamais surprotégé.
Et puis elle lui raconte plein d'histoires. Il y a oui. Les histoires de Madame Braille, et ça compte quand
chez
même.
Chez les Brailles, on sait lire.
Alors, on sait lire, ce qui est quand même assez rare au 19e siècle.
Une famille sur trois savait lire. Et donc chez les Brailles, on lit.
Il y a
des livres. Là, j'ai imaginé qu'il y avait des dictionnaires. Le Larousse, c'est bien après, mais j'ai trouvé un dictionnaire qui à l'époque existait quand même. Et donc il y a un jour un vendeur de dictionnaires qui arrive et qui vend un dictionnaire aux Brailles. Et Madame Braille adore lire des histoires. Et grâce à cela, Louis Braille sait quand il devient aveugle. C'est très important ça. Il connaît la valeur des livres. Il sait ce que c'est qu'un. Où vous emmène un livre. Il sait qu'un livre, c'est une histoire racontée par un autre, c'est la rencontre des autres, c'est la liberté, c'est la pensée. Et c'est ça qu'il a voulu. C'est à ça qu'il ne s'est jamais résigné. Louis Braille, quand il devient aveugle, se dit, c'est pas possible que définitivement les livres me soient fermés aux autres aveugles.
Oui, parce qu'à l'époque, être aveugle, c'est être condamné. Être condamné à ne pas aller à l'école.
Dans
être
les familles modestes, c'était... les enfants aveugles étaient soit vendus dans les cirques, soit ils étaient mendiants. Et les parents venaient les chercher, récupérer le soir dans la rue. Alors, il y avait une exception, c'est que un homme des Lumières, Valentin Haüy, au XVIIIe siècle, a créé un institut royal des jeunes aveugles à Paris.
Et c'est là où va aller
exactement.
Le petit Louis Braille. Vous racontez comme ça le départ de son petit village de la région parisienne vers Paris, la découverte de Paris. Et c'est là où tout va changer finalement, parce qu'il va passer la vie dans cet institut qui est pas très très drôle. Hein. Il y a cachot, soupe aux artichauts, etc., etc. Ça rigole pas du tout. Mais malgré tout, il va s'accrocher et c'est là qu'il va inventer le Braille.
Oui, il fait des pieds et des mains pour partir. Il arrive à convaincre ses parents. Imaginez, pour des parents, laisser leur enfant de 10 ans aveugle partir, c'est terrible. Mais il l'aime et il décide de lui faire confiance totalement. Et Louis Braille arrive dans un endroit qui est terrible. Et surtout, l'énorme déception, c'est qu'il y va croyant qu'il y a des livres pour les aveugles, c'est ce qu'on lui a dit. Il y a effectivement des livres pour les aveugles, mais qui sont quasiment pas lisibles par les aveugles. Ce sont des livres qui sont des livres en relief, donc c'est notre écriture cursive qui est gaufrée. Et il y avait une vingtaine de livres, et Louis Braille n'a qu'une idée quand il arrive, c'est d'aller dans la bibliothèque. Et il y a une scène où il est avec ses copains de classe où les livres étaient tellement énormes qu'il fallait deux pour porter un livre. Et très vite, dans les mois qui suivent, il a cette terrible déception de s'apercevoir que, arrivé au bout de la ligne, on avait déjà oublié le début. Et donc, il a mis tous ses espoirs dans une chimère, finalement. Mais Louis Braille, et c'est là où il est incroyable, Il s'accroche, il ne désespère jamais. Il se dit, ça n'existe pas, l'écriture pour les aveugles. C'est pas grave, je la trouverai.
Alors pour vous, existe Louis Braille, mais pour beaucoup, il y a juste le Braille. Et l'on va retrouver Michel, que l'on a entendu au tout début de l'émission. Elle a progressivement perdu la vue des suites d'une maladie oculaire. Et elle raconte à Inès Edel Garcia comment, à 69 ans, elle a décidé d'apprendre l'alphabet, la phrase de Louis Braille.
J'ai appris le Braille, bon, déjà par nécessité, pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments, et ensuite par plaisir, parce qu'à travers le Braille, j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, le plaisir des mots, j'ai renoué également avec l'orthographe, parce que lorsqu'on ne lit plus, on ne se rend pas compte, mais on perd. J'avais un petit peur, moi, de sombrer dans ce qu'on appelle l'illettrisme, parce que ne plus lire... Oui, j'avais l'impression d'être illettrée. Et puis, ça s'est passé très très bien parce que j'ai appris l'alphabet très rapidement. J'appréhendais un petit peu parce que je me disais, mes doigts n'ont pas été formés à reconnaître les lettres. Et j'avais peur de ce manque de sensation. C'est énorme le toucher, il y a que l'index qui travaille. Hein. Après, bon, la lecture est venue par la suite. Et puis, j'ai appris le braille comme si j'avais appris une langue étrangère, vous voyez. Mais j'ai mis quand même une autre connotation, parce que une langue étrangère ne fait pas référence à un handicap. Là, ça touche une intégrité, c'est une reconnaissance d'un handicap.
Hélène Jousse, pour écrire votre roman sur Louis Braille, vous avez appris le braille?
Alors, c'est très long d'apprendre le braille, et j'ai découvert aussi que pour apprendre le braille, il faut être aveugle. C'est terrible, mais il faut qu'il nous manque ce sens-là pour développer suffisamment les autres, le toucher notamment. Donc je sais reconnaître les lettres, je sais les voir et les repérer, mais je suis incapable de les lire au doigt.
La dame qu'on vient d'entendre parle de langue étrangère. Ce n'est pas à proprement parler une langue, le braille. C'est plutôt un code de reconnaissance et d'un alphabet.
Oui, c'est un code complètement. Louis Braille, alors moi j'ai très envie, j'ai commencé d'aller en parler aux adolescents. Parce que d'abord c'est un inventeur adolescent, donc il a commencé à chercher à 12 ans, il l'a inventé à 16. Et puis c'est le premier codeur. Louis Braille aujourd'hui aurait été un petit génie de l'informatique.
Un geek.
C'est un héros contemporain, Louis Braille. Il n'est pas du tout démodé. Il a codé, c'est tout. Voilà ce qu'il a fait.
Alors,
Langage universel.
Un langage universel.
Dans tous
les
pays.
Ça n'est pas une langue, mais c'est un langage universel. Alors, il n'est pas tout à fait tout seul parce que, au départ, juste avant lui, et ça se passe dans l'Institut Royal des Jeunes Aveugles, il y a un militaire qui vient faire une démonstration. Et donc, c'est à partir de ce langage militaire qu'il va inventer le braille.
Tout à fait. Alors, une invention, on dit toujours après, quand on regarde ça a posteriori, mais c'est incroyable, il y a eu ce hasard-là qui a fait que, et celui-ci et celui-ci. Vous disiez au début, s'il n'y avait pas eu l'accident, effectivement, alors avec des si, c'est toujours très amusant de recomposer les choses. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est que il faut expliquer que Louis Braille a été apprécié énormément par les gens qui l'entouraient, parce que c'était un enfant lumineux. Il éclairait les autres. Alors pour un aveugle, c'est paradoxal, mais c'est ça. Donc on voulait l'approcher. Dans son village, je le raconte, c'est le curé et l'instituteur. Et plus tard, c'est un directeur qui arrive 2 ans après l'arrivée de Louis Braille. Le nouveau directeur s'appelle Monsieur Pigné, le docteur Pigné. Et, rarissime à l'époque, va se nouer une amitié entre l'enfant Louis Braille et le directeur, malgré la différence de génération, et une admiration réciproque énorme. Et Pigné prend l'initiative de faire venir dans cet institut un ancien militaire, Barbier de la Serre, comme vous l'avez dit, qui a imaginé un langage à base de points, en relief, de façon à ce que les militaires puissent communiquer la nuit. C'était nocturne, et de manière aussi à ce que, lorsque l'ennemi interceptait, il ne puisse pas lire. Donc c'était un code fait de points, mais c'était phonétique.
Donc, il y avait beaucoup de points en plus.
Et il y avait 12 points. Alors, c'était... Quand Louis Braille comprend ce que c'est, il se dit, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est les points. C'est pas suffisant, bien sûr, parce que ça n'est que de la phonétique, c'est donc pas du tout un langage, c'est pas du tout adapté ni à l'orthographe, ni à la traduction vraiment d'une langue. Mais Louis Braille comprend que c'est ça qui va l'aider à trouver ce qui convient aux aveugles. Et il fallait, moi je suis persuadée, que seul un aveugle pouvait trouver le langage, pour le langage écrit des aveugles.
Alors comme vous l'écrivez, Hélène Jou, il ne dit pas tout d'un coup « Eureka, j'ai trouvé », c'est vraiment des jours et des nuits de travail pendant 2-3 ans pour découvrir finalement ce système, a priori très simple mais si complexe, qui repose sur 6 points.
6 points, voilà. Il comprend que demain, pour que la lettre, c'est donc chaque lettre a un code en 6 points, pour que la lettre soit lisible sur la pulpe du doigt, il faut qu'il y ait seulement 6 points. Mais 6 points, c'est tout. C'est énorme, 6 points. 6 points, c'est 64 combinaisons. Si on enlève les 6 points rentrés, c'est-à-dire rien, il reste 63 combinaisons possibles, avec lesquelles, évidemment, on peut écrire l'alphabet, la ponctuation, la musique, les mathématiques, voilà, tout. Et dans ces 6 petits points, Louis Braille fait rentrer tout le langage.
Qui devient donc un langage universel. Et vous racontez, malgré tout cela, qu'aucun journal n'annoncera sa mort. Mais en 1952, un siècle après sa disparition, son corps est déposé au Panthéon, bâtiment dans le centre de Paris, sur lequel est inscrit aux grands hommes la patrie reconnaissante. Mais il y a un mystère, connu de tous, enfin connu plus ou moins, mais que j'ai découvert en vous lisant, oui. C'est que... et vous touchiez vos mains en expliquant ce qu'est le système d'encodage de Louis Braille, c'est que les mains de Louis Braille ne sont pas au Panthéon.
Non, non. Alors j'en fais une surprise dans le livre, c'est pas grave, ça n'en sera plus une, mais vous verrez comment c'est découvert par la scénariste, qui est effarée le jour où elle va dans le petit village dans lequel a grandi Louis Braille, et elle, au cimetière, évidemment, n'est plus le corps de Louis Braille puisqu'il a été transféré au Panthéon, mais une boîte en marbre est là sur laquelle est écrite que sont les mains de Louis Braille à l'intérieur de cette boîte. Et j'ai trouvé que c'était un signe, un paradoxe, une cruauté. C'était étonnant que les mains de Louis Braille, qui étaient ses yeux, soient séparées de son corps. Voilà, mais...
mais en même temps, dans son village natal.
Dans son village natal, exactement. Et tout le monde l'a voulu, donc il a fallu imaginer cette chose terrible. Mais
c'est presque comme un saint avec un reliquaire.
Oui. Alors, c'est étonnant et ça me plaît beaucoup que vous disiez ça. Je suis pas loin de penser vraiment, et je le fais dire par Constance dans mon livre, que Louis est un saint.
Et aucun reproche. Vous n'avez aucun reproche à lui faire.
Non, j'ai aucun reproche.
C'est ce que dit le producteur à la scénariste. Mais t'as rien à lui reprocher. C'est juste un chic type.
Il était. Bah oui, moi j'ai rien à lui reprocher. Alors effectivement, le producteur pour le film lui dit mais c'est pas sexy, hein, Saint Constance, c'est pas drôle. Mais si, c'est extraordinaire parce qu'il est. C'est passionnant de voir ce qui se passe dans la tête de ce garçon, cette détermination et cette générosité invraisemblable. Il faut juste que je vous explique que Louis Braille a écrit les livres, a permis aux livres de s'écrire pour les autres. Je vous le dis parce que on l'oublie. Il a inventé le Braille pas pour lui, parce que il fallait, après avoir inventé le Braille, restait à écrire tous les livres en Braille.
Et à sa mort, il n'y avait que 3 livres écrits en braille seulement. Mmh. Et le braille deviendra une langue officielle, enfin un langage officiel pour les non-voyants 10 ans après sa mort à peu près.
Oui, un peu plus. Des différents traités ont permis au cours des décennies qui ont suivi que ce soit la langue officielle dans tous les pays.
Hélène Jousse, nous parlons de votre livre alors que le salon du livre audio se tient actuellement à Montreuil qui est une ville assez attentive pour les malvoyants, avec par exemple la bibliothèque municipale qui a un gros rayon livre sonore, et elle le doit à l'association des donneurs de voix. J'aime beaucoup cette formule-là, des donneurs de voix, qui depuis 40 ans fait enregistrer des livres. Reportage Inès Cédel Garcia avec Raymond Lemasson et Jacques Cohen, deux bénévoles de l'association.
Cet endroit-ci, c'est le local d'accueil, avec tous les livres enregistrés. Alors au début, c'était en cassette, ça n'a plus d'utilité aujourd'hui. Et maintenant, tous les livres qui sont dans les petites caisses en plastique, ce sont des livres enregistrés sur CD MP3, et nous en avons environ 1850.
Et ces livres audio sous forme cassette sont encore empruntés aujourd'hui ?
On n'a qu'un auditeur qui ne lit que des policiers en cassette. Mais enfin, de moins en moins maintenant, parce qu'il est de plus en plus âgé, lui aussi.
C'est amusant, vous dites, il lit et pas il écoute. Pour vous, ce sont des lecteurs ?
Pour moi, ce sont des audiolecteurs, voilà. Ils n'écoutent pas, ils lisent, mais en réalité, ils écoutent, c'est vrai.
Quel est le profil de vos audiolecteurs, justement ?
On a quelques non-voyants, mais comme vous le savez peut-être, ces non-voyants, ils ont été éduqués petits à apprendre le braille, par exemple. Et maintenant, avec tous les ordinateurs, l'informatique et tout ça, ils recherchent sur Internet, ils sont formés. Et eux, ils se débrouillent beaucoup mieux que les gens qui deviennent aveugles, enfin malvoyants plutôt. Donc nous, on a plutôt des gens qui ont plus de 70 ans. Et on a aussi maintenant des jeunes enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, etc., qui nous sont envoyés par, en général, des orthophonistes. Et il paraît que écouter un livre et le lire en même temps, ça fait un bien bénéfique énorme. Alors là, c'était donc l'accueil. Maintenant, on arrive un peu dans la partie technique. Je vous présente M. Jacques Cohen, qui est en train de faire un travail informatique.
Bonjour, Jacques Cohen.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer sur votre ordinateur ?
D'enregistrer des livres, de nouveaux livres, des donneurs de voix qui habitent à Montreuil ou autour de Montreuil et qui enregistrent chez eux les livres qui ne sont pas déjà dans le fichier national qui comprend 10 000 livres.
Comment vous constituez cette bibliothèque sonore ? Comment vous choisissez les livres qui feront partie du coup des livres audio ?
Alors, ce n'est pas nous qui choisissons les livres. Nous laissons le libre choix aux donneurs de voix. On pense que c'est plus facile de lire un livre que l'on aime ou qu'on a déjà lu même souvent que de lire un livre qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde et c'est mieux lu en plus.
Et alors pour un livre d'une centaine de pages, combien de temps faut-il pour l'enregistrer ?
Alors on dit toujours que un livre qui dure une heure par exemple, on fait un petit livre, on compte à peu près trois fois le temps pour l'enregistrer.
Les secrets de l'île de Vivekasten. La durée d'écoute de ce livre est de 10h29.
Reportage à Montreuil avec les donneurs de voix. Il faut, Hélène Jouz, saluer ce genre d'association quand même qui permettent à tous d'entendre des livres.
Bien sûr, il faut. Mais ils font concurrence au braille. Mais c'est merveilleux qu'ils soient là quand même, parce que tout le monde ne peut pas avoir la patience d'apprendre le braille. Mais je dis juste aux jeunes qui ne voient pas, apprenez le braille. Il ne se passe pas du tout la même chose dans la tête quand on entend une histoire qu'on nous lit, et quand on la lit soi-même, c'est pas les mêmes connexions, l'imaginaire est pas du tout en branle de la même façon, et donc moi, évidemment, je recommande à tout le monde de devenir brailliste, puisque c'est le mot que l'on utilise.
Votre roman est traduit, édité,
retranscrit en braille. Tout à fait, et j'ai tenu, ce qui est rarissime, à ce que le roman sorte en braille en même temps que en noir, puisqu'on parle des livres en noir lorsqu'on est aveugle, pour désigner nos livres.
Et dernière question, un film, finalement, in fine ?
In fine, eh bien écoutez, je l'attends.
Moi je dis oui, j'ai pas le budget, mais je dis oui.
J'espère.
Merci beaucoup Hélène Jouz, Les mains de Louis Braille, édité chez Jean-Claude Lattès, avec des scènes formidables, et encore une fois, on peut pleurer en lisant votre livre.
Merci.
De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand et Yaël Co, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve, et bien demain.